Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI. Il est maintenant 15h, temps universel, 16h, ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
Avec à la une l'escalade diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kinshasa et Kigali ont rappelé leurs diplomates respectifs. En pleine crise dans l'est de la RDC, le groupe armé du M23 soutenu par des militaires rwandais est aux portes de Goma. Donald Trump propose de faire le ménage, je cite, dans la bande de Gaza pour le président américain. Les Palestiniens du territoire devraient être déplacés en Égypte ou en Jordanie. Pas question, répond le Hamas. Excellente idée, estiment en revanche certains responsables d'extrême droite en Israël. À suivre aussi la reprise des transferts controversés de migrants de l'Italie vers l'Albanie. 49 personnes ont été embarquées ce matin après plus de 2 mois d'interruption. On verra pourquoi. Et puis le beau doublé de Yannick Sinner, l'Italien vainqueur de l'Open de tennis d'Australie. Il s'est imposé sans pitié face à l'Allemand Alexander Zverev. À son tour, la Grande-Bretagne se dit profondément préoccupée par la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Londres appelle à la désescalade, dernier appel au calme en date alors que les combats font rage toujours autour de Goma, entre l'armée congolaise et ses alliés, et en face le groupe armé du M23 soutenu par des militaires rwandais. Le ton est encore monté d'un cran ces dernières heures entre les deux voisins. Kinshasa a rappelé ses diplomates de son ambassade à Kigali et a demandé aussi aux diplomates rwandais de quitter le territoire. C'est donc de fait une rupture des relations diplomatiques. Décision regrettable, estiment les autorités rwandaises. Correspondance à Kigali, Lucie Mouillot.
Selon le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, le retrait des diplomates de l'ambassade congolaise à Kigali n'est pas destiné à améliorer la situation à l'est de la RDC.
Ce n'est pas une décision qui amène à la recherche d'une solution durable par rapport à ce qui se passe à l'est, mais ils l'ont pris, on doit l'accepter et la respecter.
Le gouvernement congolais a également demandé aux diplomates rwandais à Kinshasa de quitter le territoire d'ici 48 heures. Il n'y avait déjà plus d'ambassadeur rwandais en poste en RDC depuis plus de 2 ans. Le dernier, Vincent Karega, avait été expulsé en octobre 2022 suite aux accusations de soutien de l'armée de Kigali au groupe rebelle du M23.
Il y a quelques temps, on a chassé l'ambassadeur du Rwanda, on a suspendu la coopération économique entre les deux pays, les accords commerciaux qui étaient en place. Et aujourd'hui, ce sont les employés des ambassades. C'est ce genre de décisions qui sont prises pour amuser la galerie, alors que le fond du problème n'est pas examiné pour essayer de trouver une solution durable.
Face aux dernières déclarations de l'Union européenne et des Nations unies, accusant les troupes rwandaises de participer activement à l'offensive du M23 ces derniers jours, le porte-parole du gouvernement dénonce des communications déséquilibrées qui ne condamnent pas assez la collaboration entre les FARDC et des milices sanctionnées par l'ONU. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
Et face à cette escalade dans l'est de la RDC, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été avancée. Elle doit se tenir là incessamment ou en ce moment à New York. À l'instant, le chef de l'ONU, via son porte-parole, appelle les forces rwandaises à se retirer de RDC. Des réactions en chaîne après les déclarations choc de Donald Trump qui propose de déplacer les Palestiniens hors de Gaza pour faire le ménage, dit-il, dans le territoire ravagé par 15 mois de guerre. L'idée du président américain exprimée devant les journalistes serait donc de relocaliser les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie de manière temporaire ou à long terme, selon lui. Un appel téléphonique est prévu ce dimanche entre Donald Trump et le président égyptien. Abdel Fattah al-Sissi n'a pas réagi officiellement à cette idée pour l'instant, mais sur les réseaux sociaux égyptiens, c'est clair. Alexandre Bouchianti, c'est non.
L'aile et le tahgir, non au déplacement forcé, un hashtag qui est rapidement devenu une tendance sur Twitter et qui reflète le rejet total du projet défendu par le président Trump. Les internautes rappellent que le projet a été proposé par la droite israélienne depuis des années. Un journal publie sur Twitter un dessin avec un doigt d'honneur au deal du siècle proposé par Trump. Les appels à la mobilisation contre la conspiration se multiplient, y compris de la part de journalistes proches des plus hautes autorités égyptiennes. C'est le cas d'Ahmad Moussa, qui écrit sur son compte qu'il n'est pas question de laisser liquider la cause palestinienne en forçant les Gazaouis à se déplacer dans le Sinaï égyptien. Le président Abdel Fattah el-Sissi a rejeté cette proposition à maintes reprises. Les médias égyptiens parlaient d'une nouvelle Nakba, le nom donné par les Arabes au départ forcé de centaines de milliers de Palestiniens après la déclaration de l'État d'Israël. Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Par ailleurs, sur l'accord de trêve dans la bande de Gaza, il y a un blocage ce dimanche sur le stratégique corridor de Netzarim militarisé par Israël. Ce corridor qui coupe, entre guillemets, le territoire en deux. Des dizaines de milliers de Palestiniens déplacés attendent dans la zone pour tenter de passer, de rentrer vers le nord de la bande de Gaza. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer l'accord. L'armée israélienne qui a ouvert le feu par ailleurs ce dimanche dans le sud du Liban, elle avait prévenu qu'elle resterait déployée au-delà de la date limite fixée à ce dimanche pour son retrait. C'est ce que prévoyait l'accord de cesser le feu entre Israël et le Hezbollah. Des milliers de Libanais ont tout de même tenté de rentrer chez eux et cela a dégénéré. Le dernier bilan, selon le ministère libanais de la Santé, est de 15 morts et des dizaines de blessés. Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, inculpé, le président déchu depuis sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Il est accusé par la justice d'avoir mené une insurrection et il reste donc maintenu en détention. En Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko en route pour un septième mandat en ce jour de présidentiel sans vraiment de suspense. L'autocrate assumé au pouvoir depuis 30 ans a qualifié son pays de démocratie brutal. Alors que la Biélorussie sert de base arrière à l'armée russe dans sa guerre en Ukraine, il affirme n'avoir aucun regret. De son côté, la chef de file de l'opposition en exil a dénoncé une farce. La reprise ce dimanche des transferts controversés de migrants d'Italie vers l'Albanie. 49 demandeurs d'asile ont été embarqués à bord d'un navire. Cela fait suite à l'accord entre Rome et Tirana pour externaliser les demandes d'asile. Les premiers transferts menés en octobre et novembre dernier, pourtant, avait échoué après des décisions de justice à venir.
La reprise des transferts de migrants vers l'Albanie, uniquement des hommes adultes considérés comme non vulnérables, est liée à deux principales raisons. D'une part, le gouvernement Meloni a décidé de ne plus attendre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, chargée de vérifier si la législation italienne est conforme au droit européen. D'autre part, une nouvelle mesure donne le pouvoir d'invalider ou non la détention en Albanie d'un migrant au juge des cours d'appel et non plus au juge de la section des affaires migratoires des tribunaux que l'exécutif estime plus favorable aux demandeurs d'asile. Les centres d'identification dans le port de Shenzhen et de rétention administrative à Djader sont donc de nouveau opérationnels après avoir été vidés du personnel pendant plus de deux mois suite à l'invalidation de la rétention de tous les migrants, pour la plupart bangladais et égyptiens. Mais le risque de nouveaux revers judiciaires pour le gouvernement italien est bien réel. Anne Lenir, Rome, RFI.
Et puis il est juste trop fort. Alexander Zverev l'a reconnu après sa défaite face au numéro 1 mondial. Le meilleur, c'est Yannick Sinner, vainqueur de l'Open de tennis d'Australie à Melbourne et qui garde donc son titre, Arthur Franc.
Implacable et imperturbable, Yannick Sinner a fait respecter son statut sous les projecteurs de la Rod Laver Arena. De retour sur les terres de son premier sacre, un an après, l'Italien n'a jamais tremblé et savoure.
Congratulations, Yannick Sinner, back to back, Australian Open Championship.
Well, it was an amazing performance from my side.
C'était une performance incroyable de ma part. Tout compte fait, c'est encore une fois un parcours extraordinaire ici en Australie. Je suis très heureux. Partager cela avec l'équipe, la famille et les gens que j'aime, c'est juste génial.
Surpuissant et étouffant, Sinner n'a pas concédé la moindre balle de break. Le natif de San Candido ne fait pas toujours lever les foules, mais connaît la recette pour gagner, tout l'inverse de son adversaire, Alexander Zverev, qui est encore passé à travers d'une grande finale, sa troisième en carrière, trop attentiste et incapable de forcer son destin. À Melbourne, Yannick Sinner, 23 ans, a confirmé qu'il était le patron du tennis mondial. et compte bien le rester. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
À Melbourne, 2h10 du matin, 16h10 ici à Paris, tout de suite en sol majeur, avec Yasmine Chouaki.